Le dernier de septembre, j'ai passé la nuit sans pouvoir fermer les yeux, impatient de voir paraître le jour dans lequel je me sentais sûr de retourner chez moi. Mais le jour parut. Laurent vint et ne me dit rien de nouveau. J'ai passé 5 ou 6 jours dans la rage, dans le désespoir. J'ai cru qu'il se pouvait que, par des raisons que j'ignorais, on eût décidé de me tenir là pour tout le reste de mes jours. Cette idée affreuse me fit rire, car je savais d'être le maître de n'y rester que très peu de temps, une fois que j'eusse pu me résoudre à me procurer la liberté au risque de ma vie. Deliberata morte ferocior, devenu plus féroce par une mort voulue, ce fut au contraire au commencement de novembre que j'ai formé le projet de sortir par force d'un lieu où l'on me tenait par force. Cette pensée devint mon unique. J'ai commencé à chercher, à inventer, à examiner sans moyen de venir à bout d'une entreprise qu'avant moi plusieurs peuvent avoir tentée, mais que personne ne put conduire à son terme. Dans ce même temps, il m'arriva un matin un accident qui me fit connaître la misérable situation de mon âme. J'étais debout dans le galetas, regardant en haut vers la lucarne. Je voyais également la grosse poutre. Laurent, mon gardien, sortait de mon cachot avec 2 de ses gens, lorsque j'ai vu l'énorme poutre, non pas branlée, mais se tourner vers son côté droit et se retourner d'abord comme elle l'était par un mouvement contraire lent et interrompu. En même temps, ayant senti que j'avais perdu mon aplomb, je fus convaincu que c'était une secousse de tremblement de terre, et mes gens s'en aperçurent. Je n'ai rien dit, mais je me suis senti réjoui de ce phénomène. Quelques secondes après, ce même mouvement reparut, et je n'ai pu empêcher qu'il ne m'échappât de la bouche ces mots « un ultra grand Dieu, ma più forte !» un autre grand Dieu, mais plus fort. Les archers, effrayés de ce qui leur sembla impiété d'un désespéré fou et blasphémateur, s'enfuirent, saisis d'horreur. En m'examinant après, j'ai trouvé que je calculais entre les événements possibles l'écroulement du palais ducal compatible avec le recouvrement de ma liberté. Le palais précipité devait me jeter, sans le moindre détriment, sain, sauf et libre, sur le beau pavé de la place de Saint-Marc. C'est ainsi que je commençais à devenir fou. Cette secousse vint du même tremblement de terre qui écrasa dans ces mêmes jours Lisbonne. Pour préparer mon lecteur à bien comprendre la fuite d'un endroit pareil, il faut que je lui désigne le local. Ces prisons sont positivement dans ce qu'on appelle le grenier du Grand Palais. Son toit n'étant couvert ni d'ardoise ni de briques, mais de plaques de plomb de 3 pieds carrés, épaisses d'une ligne, donne le nom d'éplomb aux mêmes prisons. On ne peut y entrer que par les portes du palais ou par le beau bâtiment des prisons, par où on m'a fait entrer en passant le pont qu'on nomme le pont des soupirs, dont j'ai déjà parlé. On ne peut monter à ces prisons qu'en passant par la salle où les inquisiteurs d'État s'assemblent. Leur secrétaire en a seule la clé, que le gardien des plombs doit lui remettre d'abord que de grand matin, il a fait à son service aux prisonniers. On le fait à la pointe du jour, parce que plus tard, les archers allant et venant seraient trop vus dans un endroit qui est rempli de tous ceux qui ont affaire au chef du conseil des 10, qui siègent tous les matins dans la salle contiguë, appelée la boussola, par où les archers doivent passer. Ces prisons se trouvent divisées sous l'éminence des 2 faces opposées du palais. 3 sont au couchant, dont la mienne était une, et 4 au levant. La gouttière, au bord du toit de celles qui sont au couchant, donne dans la cour du palais. Celle au levant est perpendiculairement sur le canal di Palazzo. De ce côté, les cachots sont très clairs et on peut y être debout, qualité qui manquait à la prison où j'étais et dont le nom était Il Trave, la poutre. Le plancher de mon cachot était positivement au-dessus du plafond de la salle des inquisiteurs d'État, où ils vont presque toujours dans la nuit, après la séance journalière du Conseil des 10, dont tous les trois sont membres. Informé comme j'étais de tout cela, avec la parfaite idée topographique du local, la seule voie susceptible de réussite qui se présenta à mon jugement fut celle de percer le plancher. Mais il fallait avoir des instruments, chose très difficile dans un lieu où toute correspondance au dehors est défendue, où on ne permet ni visite ni commerce épistolaire avec personne. Je ne pouvais pas penser à confier à quelqu'un de ces archers, d'autant plus que je n'avais pas d'argent pour le séduire. Dans certaines heures de fureur, je roulais dans ma tête le moyen de me rendre la sortie libre en tuant le gardien et les deux satellites qui venaient faire mon lit. Mais, n'ayant pas des armes, je ne voyais autre moyen que celui de les étrangler à belles mains en leur supposant toute la complaisance nécessaire à l'exécution. Un archer était toujours dehors à la première porte, qu'il n'ouvrait que lorsque ceux qui voulaient sortir lui donnaient le mot de passe. Outre cela, il était prêt à accourir au moindre bruit. Mon seul plaisir était celui de me repaître de projets chimériques, tous tendant au recouvrement de ma liberté, sans laquelle je ne voulais pas de la vie. Je lisais toujours Boèce, mais j'avais besoin de sortir de là, et dans Boèce, je ne trouvais pas le moyen. J'y pensais toujours, parce que j'étais persuadé de ne pouvoir le trouver qu'à force d'y penser. Je crois encore aujourd'hui que lorsque l'homme se met dans la tête de venir à bout d'un projet quelconque, et qu'il ne s'occupe que de cela, il doit y parvenir malgré toutes les difficultés. Cet homme deviendra grand vizir, il deviendra pape, il culbutera une monarchie, pourvu qu'il s'y prenne de bonne heure, car l'homme arrivé à l'âge méprisé par la fortune ne parvient à rien, et sans son secours on ne peut pas espérer de réussite. Il s'agit de compter sur elle et en même temps de défier ses revers. Mais c'est un calcul politique des plus difficiles. À la moitié de novembre, le gardien me dit que Messer Grande avait entre ses mains un détenu et que le secrétaire nouveau, Sir Cospetto Pier Businello, lui avait ordonné de le mettre dans le plus mauvais de tous les cachots et que par conséquent c'était avec moi qu'il allait le mettre. Il m'assura qu'il lui avait représenté que j'avais regardé comme une grâce celle d'avoir été mis tout seul, et qui lui avait répondu que je devais être devenu plus sage en 4 mois que j'étais là. Cette nouvelle ne me fit pas de peine, et je n'ai pas trouvé désagréable celle qui m'annonçait le changement de secrétaire. Ce monsieur de Businello était un brave homme que j'avais connu à Londres, résident de la République, mais je me suis montré indifférent à l'une aussi bien qu'à l'autre de ses nouveautés. 1 heure après la cloche de Terza, j'ai entendu le sifflement des verrous et j'ai vu Laurent, suivi de 2 archers, qui tenaient avec des menottes un jeune homme qui pleurait. On l'enferma chez moi et on s'en alla sans dire le moindre mot. J'étais sur mon lit dans la petite alcôve où il ne pouvait pas me voir. Sa surprise m'amusa. Ayant le bonheur d'avoir une taille de 5 pieds, il se tenait debout en regardant attentif mon fauteuil qu'il croyait préparé pour lui. Il vit sur la hauteur d'appui Boèce. Il essuya ses pleurs, l'ouvrit et le rejeta avec dépit lorsqu'il vit que c'était du latin. Il fit le tour du cachot et, étonné de trouver des hardes, il fut vite à l'alcôve où une faible lueur lui fit voir mon lit. Il mit alors la main sur moi qu'il retira en me demandant pardon lorsqu'il entendit le son de ma voix. Je lui ai dit de s'asseoir, et le lecteur peut s'imaginer que notre connaissance fut bientôt faite. Il me dit qu'il était natif de la ville de Vicence, et que son père, quoique pauvre cocher, l'avait envoyé à l'école, où, ayant appris à écrire, il s'était trouvé en état, à l'âge de 11 ans, d'entrer dans la boutique d'un perruquier. En 4 ans, il avait appris à peigner perruques et cheveux assez bien pour aller servir monsieur le comte en qualité de valet de chambre. Il me dit en soupirant que 2 ans après, la fille unique du comte fut retirée du couvent et qu'en peignant ses beaux cheveux, il en était devenu amoureux comme elle de lui, et que, ne pouvant résister ni l'un ni l'autre à la violence de leur ardeur, il s'était donné la foi de mariage et avait laissé après cela un libre cours à la nature, au moyen de quoi la jeune comtesse, qui avait 18 ans, était devenue grosse. Une vieille servante de la maison, fort dévote, avait découvert leur intelligence et l'embonpoint criminel de sa maîtresse, et après avoir su lui faire confesser tout, lui avait dit qu'elle était obligée en conscience de tout découvrir au comte père. La coupable avait assuré la vieille que dans la semaine même elle le lui ferait dire par son confesseur, et sous cette condition elle lui avait promis silence. Il me dit qu'au lieu de penser à cette vaine démarche, ils avaient pris le parti de s'enfuir et d'aller vivre à Milan, sûrs et contents. La demoiselle, sa femme, s'était déjà emparée d'une somme d'argent et de quelques diamants de feu sa mère, et ils devaient partir ensemble au commencement de la nuit, lorsque le comte l'appela, lui donna une lettre et l'envoya à Venise pour la remettre à la personne à laquelle elle était adressée. Il me dit que le comte lui avait parlé avec tant de bonté et si tranquillement qu'il n'eut aucun motif de soupçonner la fraude. Il n'avait eu le temps que d'aller dans sa chambre pour prendre son manteau, et il n'avait dit adieu à sa belle qu'en passant, en l'assurant qu'il serait de retour le lendemain, sur quoi elle s'était évanouie. Il était arrivé à Venise en moins de 8 heures. Il avait porté la lettre à son adresse. Il avait reçu la réponse. Il était allé à l'hôtellerie pour manger et pour retourner d'abord à Vicence. Mais en sortant du cabaret, les archers l'avaient pris et l'avait mis dans leur corps de garde, où il l'avait tenu jusqu'au moment qu'il l'avait conduit là où il se voyait. C'était un fort joli garçon, sincère, honnête et amoureux à outrance. Il ne faisait que réfléchir au sort de la jeune comtesse qu'il plaignait plus qu'il ne se plaignait. Il me demanda en pleurant s'il pouvait la regarder comme sa femme. Et je l'ai vu désespérer lorsque je lui ai dit qu'elle ne l'était pas. Il défendit sa cause vis-à-vis de moi par des raisons tirées du code de la nature, qui lui paraissait sainte et toute-puissante. Je crois qu'il m'a supposé un peu fou lorsque je lui ai dit que la nature ne pouvait mener l'homme qu'à faire des sottises. Il croyait qu'on retournerait pour lui porter à manger un lit, mais je l'ai désabusé et j'ai deviné. Je lui ai donné à manger, mais il n'a pu rien avaler. Il me parla de sa maîtresse toute la journée, toujours pleurant. Il me faisait la plus grande pitié, et cette pauvre fille était déjà vis-à-vis de moi plus que justifiée. Si les inquisiteurs d'État se fussent trouvés invisibles dans mon cachot, présents à tout ce que ce pauvre garçon m'a dit, je suis sûr encore aujourd'hui qu'il l'aurait non seulement renvoyé, mais marié sans faire attention ni aux lois ni aux usages. Je lui ai donné ma paillasse, car je n'ai pas voulu d'un jeune homme amoureux dans mon lit. Il ne connaissait pas la grandeur de sa faute, ni le besoin que le comte avait qu'on lui donnât une punition secrète pour sauver l'honneur de sa famille. Le lendemain, on lui porta une paillasse et un manger de 15 sous que le tribunal lui passait par charité. J'ai dit au gardien que mon dîner suffisait pour tous les deux et qu'il pouvait employer ce que le tribunal passait à ce garçon pour lui faire célébrer 3 messes par semaine. Il s'en chargea volontiers, fit compliment au garçon de ce qu'il était avec moi, lui ordonna de me respecter et nous dit que nous pouvions nous promener dans le Galta pour la demi-heure qu'il lui fallait pour faire servir les autres prisonniers. J'ai accepté cette grâce et j'ai trouvé cette promenade excellente pour ma santé et essentielle pour mon projet de fuite qui parvint à sa maturité en 11 mois. J'ai vu plusieurs vieux meubles jetés sur le plancher à droite et à gauche de 2 caisses et devant un grand tas de cahiers. J'en ai pris 5 à 6 pour m'amuser à les lire. C'étaient des procès, tous criminels, que j'ai trouvé très amusants. Lecture pour moi d'une nouvelle espèce. Interrogations suggestives, réponses singulières sur des séductions de vierges, des galanteries défendues vis-à-vis des gouverneurs, des confesseurs, des maîtres d'école et des pupilles. Il y en avait de 2 ou 3 siècles d'ancienneté, dont le style et les mœurs me firent passer assez agréablement des journées entières. Dans les meubles qui étaient par terre, j'ai vu une bassinoire, une chaudière, une pelle à feu, des pincettes, 2 vieux chandeliers, des pots de terre et une seringue d'étain. J'ai jugé que quelque illustre prisonnier pût avoir mérité d'être distingué par la permission de faire usage de ces meubles. J'ai vu aussi une espèce de verrou, tout droit, gros comme mon pouce, et long plus d'un pied et demi. Je n'ai touché à rien de tout cela. Le temps n'était pas encore venu de jeter des dévolus sur quelque chose. Mon camarade, un beau matin, vers la fin du mois, me fut enlevé. On l'a condamné dans les prisons appelées les 4. Elles sont dans l'enceinte du bâtiment des prisons et elles appartiennent aux inquisiteurs d'État. Les prisonniers qui sont là ont l'agrément de pouvoir appeler les gardiens quand ils en ont besoin. Elles sont obscures, mais on leur accorde une lampe. Tout est marbre et on n'y craint pas le feu. J'ai su, longtemps après, qu'on a tenu là-dedans ce pauvre garçon 5 ans et qu'on l'a envoyé après à Cherigo, qui est l'ancienne citerre, île appartenant à la République de Venise, située à la fin de l'archipel la plus éloignée de toutes les possessions du Grand Conseil. On en voit là, à terminer leur jour, tous les coupables en fait de galanterie qui ne sont pas d'un rang qui mérite des égards. Cette île est la patrie de Vénus, selon la mythologie, et il est singulier que les Vénitiens l'aient choisie pour la terre d'exil de toute la famille de la déesse, et que ce soit pour la déshonorer, tandis que les anciens, ses dévots, y allaient pour lui rendre hommage et pour se livrer à tous les plaisirs. J'ai doublé le cap de cette île l'année 43 en allant à Constantinople, et je suis descendu pour y voir la misère, qui n'empêche pas cependant que l'air me soit embaumé par les délicieux parfums des fleurs et des herbes, que le climat ne soit des plus doux et que le muscat ne soit plus estimé que celui de Chypre, que les femmes n'en soient toutes belles et que tous les habitants n'y brûlent d'amour jusqu'au dernier moment de leur vie. La République y envoie tous les 2 ans un noble pour la gouverner, avec le titre de provéditeur, qui, ayant besoin de se pourvoir lui-même, ne manque pas de réaliser son titre. Je n'ai jamais pu savoir si ce garçon y est mort. Il m'a tenu bonne compagnie et je m'en suis aperçu lorsque, resté seul, je suis retombé dans la tristesse. Le privilège de me promener une demi-heure dans le Galata m'est resté. J'ai examiné tout ce qu'il y avait. Un caisson était rempli de beaux papiers, de cartons, de plumes d'oie non taillées et de pelotons de ficelles. L'autre était cloué. un morceau de marbre noir, poli, épais d'un pouce, long 6 et large 3, intéressa ma vue. Je l'ai pris sans aucun dessin et je l'ai placé sous ma chemise dans le cachot. 8 jours après le départ de ce garçon, Laurent me dit qu'il y avait apparence que j'aurais un nouveau camarade. Cet homme, qui au fond n'était qu'un bavard, commença à s'impatienter de ce que je ne lui faisais jamais aucune question. Son devoir était de ne pas l'être, et ne pouvant pas faire parade avec moi de sa réserve, car je me montrais curieux de rien, il s'imagina que je ne l'interrogeais jamais parce que je supposais qu'il ne savait rien. Son amour-propre se trouva lésé, et pour me faire voir que je me trompais, il commença à jaser, non interrogé. Il me dit qu'il croyait que j'aurais souvent des nouvelles visites, car les autres 6 cachots contenaient tous 2 personnes qui n'étaient pas faites pour être envoyées aux 4. Après une longue pause, voyant que je ne lui demandais pas ce que c'était que cette distinction, il me dit qu'aux 4, il y avait pêle-mêle toutes sortes de gens dont la sentence, quoiqu'à eux non connue, était écrite. Il poursuivit à me dire que ceux qui étaient comme moi sous les plombs, confiés à lui, étaient tous des personnes de la plus grande distinction et criminels de ce qu'il était impossible que les curieux devinassent. Si vous saviez, monsieur, quels sont les compagnons de votre sort, vous vous étonneriez, car il est vrai qu'on dit que vous êtes un homme d'esprit. Mais vous me pardonnerez. Vous savez que ce n'est rien qu'avoir de l'esprit pour être traité ainsi. Vous m'entendez? 50 sous par jour, c'est quelque chose. On donne 3 livres à un patricien, et je dois le savoir, je pense, puisque tout passe par mes mains. Et ici, il me fit son propre éloge, tout composé de qualités négatives. Il me dit qu'il n'était ni voleur, ni brutal, ni méchant, ni menteur, ni traître, ni ivrogne, ni avare, comme tous ses prédécesseurs. Il me dit que si son père l'eût envoyé à l'école, il aurait appris à écrire et qu'il serait au moins Messer Grande, puisque son éminence André D., qui à son tour était toujours inquisiteur, d'État l'estimait beaucoup, et qu'il avait une femme qui n'avait que 24 ans, et que c'était elle-même qui me faisait à manger. Il me dit que j'aurais le plaisir d'avoir avec moi tous les nouveaux arrivés, mais tous pour peu de jours, car lorsque le secrétaire avait relevé d'eux ce qu'il avait besoin de savoir de leur propre bouche, il les envoyait à leur destination, ou aux 4, ou dans quelque fort, où, s'ils étaient étrangers, ils les faisaient accompagner, où on leur annonçait l'exil. La clémence du tribunal, mon cher monsieur, est sans exemple, et il n'y en a aucun autre au monde qui procure à ses prisonniers plus de douceur et d'agrément. On trouve cruel qu'ils ne permettent ni d'écrire ni de recevoir des visites. Mais c'est une folle idée, car écrire ne sert à rien. Et recevoir des visites est une perte de temps. Vous me direz que vous n'avez rien à faire, mais les gardiens ne peuvent pas dire cela. Voilà à peu près la première harangue dont ce bourreau m'a honoré et qui au vrai m'amusa. J'ai décidé que j'aurais pu avoir un gardien beaucoup moins bête et beaucoup plus méchant. J'ai fait plusieurs dispositions pour tirer quelques parties de sa bêtise. Le lendemain, on m'amena le nouveau camarade qu'on traita le premier jour comme on avait traité le jeune valet de chambre. J'ai appris qu'il s'agissait de recevoir un convive inattendu et qu'il fallait donc avoir toujours préparé une autre cuillère d'ivoire. Cet homme, auquel je me suis d'abord montré, me fit une profonde révérence. Ma barbe en imposait encore plus que ma taille. Elle avait déjà 4 pouces de longueur, et je m'y étais accoutumé autant qu'un capucin. Laurent me prêtait souvent des ciseaux pour me faire les ongles des pieds, mais il m'était défendu de couper ma barbe sous des grandes peines, et je l'avais garde de désobéir. Mon nouveau venu était un homme de 50 ans, grand comme moi, un peu courbé, maigre, à grande bouche et longues dents, avec des petits yeux châtains, des longs sourcils rouges, une perruque ronde et noire et vêtue de gros draps gris. Malgré qu'il ait accepté mon dîner, il fit le réservé. Il ne me dit pas le mot de toute la journée, mais j'en ai agi de même. Mais il changea de système le lendemain. On lui apporta de bonne heure un lit qui lui appartenait et du linge dans un sac. Mon pauvre premier camarade sans moi n'aurait pas pu changer de chemise. Le gardien dit à cet homme qu'il avait mal fait à ne pas mettre dans sa poche de l'argent puisque le secrétaire lui avait ordonné de ne lui porter que de l'eau et du pain de munitions qu'on appelle biscotto. Mon homme soupira et ne répondit rien. Lorsque nous fûmes seuls, je lui ai dit qu'il mangerait avec moi, et le vilain avare me baisa la main et me parla ainsi. « Je m'appelle Segualdonomili. Je suis fils d'un paysan qui m'envoya à l'école, où j'ai appris à écrire et qu'il me laissa à sa mort ma petite maison et le peu de terrain qui en dépendait. Ma patrie est le Frioul, une journée au-delà d'Udine. Un torrent qu'on appelle Corno et qui souvent endommageait ma petite possession me fit prendre le parti il y a 10 ans de vendre mon bien et de m'épanouir à Venise. On m'en compta 8 000 livres vénitiennes en beaux sequins. J'étais informé que dans la capitale de cette glorieuse république, tout le monde jouissait d'une honnêteté libre et qu'un homme industrieux qui avait un capital comme le mien pouvait y vivre fort à son aise sans fatiguer son corps en prêtant sur gage. Sûr de mon économie, de mon jugement et de mon savoir-vivre, je me suis déterminé à faire ce même métier. J'ai loué une petite maison dans le Canal Reggio, je l'ai meublée, et en vivant tout seul et sans besoin de domestique, en me faisant moi-même mon manger, j'ai vécu 2 ans avec toute ma tranquillité, devenu plus riche de 2 000 livres, puisqu'en voulant bien vivre, j'en avais dépensé 1 000 pour mon entretien. J'étais sûr de devenir en peu de temps 20 fois plus riche. Dans ce temps-là, un juif me pria de lui prêter 2 sequins sur plusieurs livres latins bien reliés, entre lesquels j'en ai trouvé un italien dont le titre était « La saggezza di Carone ». Mais je n'ai jamais aimé la lecture. Je n'ai jamais lu que la doctrine chrétienne. Mais je vous avoue que cette saggezza, que j'ai voulu lire, m'a démontré combien l'homme a tort de ne pas se procurer des lumières en lisant. Ce livre, monsieur, que peut-être vous ne connaissez pas, est l'excellent entre tous les livres. Et quand on lui a lu, on connaît qu'on n'a pas besoin d'en lire d'autres, car il contient tout ce qu'il peut apporter à l'homme de savoir. Il le purge des préjugés contractés dans l'enfance, il le délivre des craintes d'une vie future, il lui fait ouvrir les yeux sur tout et lui fournit à la fin le vrai moyen de devenir heureux et foncièrement savant. Si vous sortez jamais d'ici, procurez-vous cette lecture et vous aimerez toujours celui qui vous l'a suggéré. Si quelqu'un vous dit qu'elle est défendue, traitez-le de sot. À ce discours, j'ai entièrement connu quel homme c'était, car je connaissais ce livre et j'ignorais qu'on l'eût traduit. Mais quels sont les livres auxquels on ne fait pas cet honneur à Venise ? Caron fut ami et admirateur de Montaigne et crut d'aller au-delà de son modèle. Il n'a jamais eu la moindre approbation des gens de lettres, car, mauvais physicien, il raisonne mal. Il a donné une forme méthodique à plusieurs choses que montaient une couche sans ordre, et qui, jetées là par le grand homme, ne parurent pas sujettes à censure. Mais Caron, prêtre et théologien, fut justement improuvé. On ne l'a pas lu et on l'a laissé dans la fange. Le traducteur italien, très ignorant, n'a pas seulement su que Sagienza est un mot inusité, mauvais synonyme de Sapienza. Il fallait dire Sapienza. Caron eut la folie de donner à son livre le titre de celui de Salomon. Mon camarade poursuivit ainsi. Délivré par Caron de certains scrupules et de toutes les anciennes fausses impressions, j'ai poussé mon commerce de façon qu'en 6 années, je me suis trouvé maître de 9 000 sequins. Il ne faut pas vous étonner de cela, car cette ville est fort riche, mais le jeu, la débauche et la fainéantise mettent tout le monde dans le désordre et dans le besoin d'argent, et les sages profitent de ce que les fous dissipent. Il y a 3 ans qu'un comte sert fit connaissance avec moi, et m'ayant connu pour économe, me pria de prendre de lui 500 sequins, de les mettre dans mon commerce et de lui donner la moitié de l'inutilité. Il n'exigea qu'une simple quittance, dans laquelle je m'engageai de lui remettre la même somme à sa réquisition. Je lui ai donné, au bout de la première année, 75 sequins, qui fait le 15%, et il me donna quittance. Mais il se montra mécontent. Il eut tort, puisque son argent ne m'a rien produit. J'ai toujours négocié avec le mien. La seconde année, par pure générosité, j'en ai fait de même, et nous sommes venus à des mauvaises paroles, de sorte qu'il m'a demandé la restitution de la somme. Je lui ai répondu que je rabattrais les 150 sequins que je lui avais payés. Il devint furieux, il partit, et le lendemain, il m'intima une extrajudiciaire exigeant la restitution de toute la somme. Un habile procureur prit ma défense et sut faire passer 2 ans sans qu'on parvienne à la sentence. On m'a parlé d'un accommodement il y a 3 mois, et je m'y suis refusé. Et, craignant quelque violence, je me suis adressé à M. l'abbé Giuste, qui me procura la permission de M. le duc de Mantes, ambassadeur d'Espagne, d'aller habiter sur la liste où on est à l'abri de toute surprise. Je voulais bien rendre au comte Servan son argent, mais je prétendais 100 sequins que j'avais dépensés pour le procès qu'il m'a intenté. Mon procureur fut chez moi il y a 8 jours avec celui du comte, et je leur ai fait voir les 250 sequins dans une bourse que j'étais prêt à leur donner, et pas le sou davantage. Ils sont partis tous les deux mécontents. Il y a 3 jours que M. l'abbé Juste me fit dire que M. l'ambassadeur avait trouvé bon de permettre aux inquisiteurs d'État d'envoyer chez moi leurs gens pour faire une exécution. Je ne savais pas que cela pouvait se faire. J'ai attendu cette visite avec courage, ayant mis tout mon argent en lieu de sûreté. Je n'aurais jamais pu croire que l'ambassadeur leur aurait permis de s'emparer de ma personne comme ils firent. À la pointe du jour, Messer Grande vint chez moi et me demanda 350 sequins. Et à ma réponse que je n'avais pas le sou, il me fit amener dans une gondole et me voilà. Après cette narration, j'ai fait plusieurs réflexions sur l'infâme coquin qu'on avait mis en ma compagnie. Je trouvais très juste sa détention, et l'ambassadeur louable de l'avoir livré. Cet homme a passé dans son lit tous les 3 jours qu'on m'a laissé avec moi. Il est vrai qu'il faisait un grand froid. Il m'a toujours ennuyé en me faisant des discours où il me citait toujours Caron. Ce fut alors que j'ai reconnu la vérité du proverbe « Guardati da colui che non ha letto che un libro solo ». J'ai bien maudit Caron et les usuriers. Le quatrième jour, une heure après Terza, Laurent vint ouvrir le cachot et ordonna à l'avare Nobili de descendre avec lui pour parler à monsieur le secrétaire. Je suis sorti avec Laurent pour le laisser en liberté, et en moins d'un quart d'heure, je l'ai vu paraître, ayant au lieu de ses boucles les miennes. Il était naturel de lui en demander la raison. Mais sous les plombs, on ne fait rien que par réflexion. Je n'ai rien dit et ils descendirent. Il laissa le cachot ouvert et ferma les autres portes. Une demi-heure après, je les ai revus et Nobili pleurait. Laurent me fit rire en m'ordonnant de lui remettre tout l'argent que cet homme m'avait laissé. Nobili entra dans le cachot et en sortit d'abord tenant entre les mains ses souliers, d'où il tira deux petits sacs de sequins qu'il porta, précédé par Laurent, au secrétaire. Ils remontèrent après et l'usurier mit ses souliers beaucoup moins pesants et ses boucles. Il prit son manteau et son chapeau et s'en alla avec Laurent, qui pour lors m'enferma. Le lendemain, il fit emporter ses hardes et me dit que, d'abord que le secrétaire reçut la somme, il remit ce fripon en liberté. Je n'ai plus entendu parler de lui. Je n'ai jamais su les moyens que le secrétaire employa pour obliger cet infâme à confesser qu'il avait cette somme avec lui. Il a peut-être menacé de la torture, et en qualité de menace, elle peut être encore bonne. Le 1er de l'année 1756, j'ai reçu des étrennes. Laurent me porta une robe de chambre doublée de beau renard, une couverture de soie rembourrée de coton et un sac de peau d'ours pour tenir mes pieds chauds dans le cruel froid que je sentais, aussi excessif que la chaleur que j'avais endurée dans le mois d'août. En me donnant tout cela, il me dit, par ordre du secrétaire, que je pouvais disposer de 6 sequins par mois pour me faire acheter tous les livres que je voulais, et les gazettes aussi, et que ce présent m'était fait par M. de Béer. J'ai demandé à Laurent son crayon et un morceau de papier, et j'ai écrit « Je suis reconnaissant à la pitié du tribunal et à la vertu de M. de Béer ». Il faut avoir été dans ma situation pour comprendre les sentiments que cette aventure réveilla dans mon âme. Dans le fort de ma sensibilité, j'ai pardonné à mes oppresseurs et j'ai quasi abandonné le projet de m'enfuir, tant l'homme est bon, tant le malheur l'accable et l'avilit. Mais le sentiment excité par un moyen pareil devient faible peu de moments après son essor. Malgré les livres que je me suis procurés d'abord, mon projet était toujours présent à mon imagination, et j'y rapportais tous les objets qui se présentaient à ma vue dans la petite promenade qu'on me permettait le matin dans le galetas. Laurent me dit que M. de Béer s'est présenté lui-même aux inquisiteurs d'État en leur demandant à genoux la grâce de me faire parvenir quelques marques de sa constante amitié, si j'étais encore dans le nombre des vivants, et qu'il lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Un matin, mes yeux s'étant arrêtés sur le long verrou de fer qui était sur le plancher avec d'autres vieux meubles, je l'ai considéré comme une arme offensive et défensive, et je l'ai pris et porté dans mon cachot, en le cachant sous mon habit. Resté seul, je l'ai bien examiné, et en me le figurant bien pointu, j'ai vu que ce serait un excellent esponton et bon à tout. J'ai pris le marbre noir, premier de mes larcins, et je l'ai reconnu pour une parfaite pierre de touche, puisqu'après un long frottement d'un bout du verrou contre la pierre, j'ai vu sur le même bout une facette. Devenu curieux de ce rare ouvrage où je me voyais nouveau et où je me trouvais excité par l'espoir de posséder un meuble qui devait être là-dedans très défendu, encouragé aussi par la vanité de réussir à faire une arme sans les instruments nécessaires pour la composer, enhardi par les difficultés mêmes qui s'opposaient à la construction, car je devais frotter le verrou presque à l'obscur sur la hauteur d'appui sans pouvoir tenir ferme la pierre qu'avec ma main gauche et sans avoir de l'huile pour l'humecter et moudre plus facilement le fer que je voulais rendre pointu, je n'ai fait usage que de ma salive, et j'ai travaillé 15 jours pour affiler 8 facettes pyramidales qui, à leur bout, formèrent une pointe parfaite. Ces facettes avaient 1,5 pouces de longueur. Cela formait un stylet octangulaire, aussi bien proportionné qu'on aurait pu exiger davantage d'un bon taillandier. On ne peut pas se figurer la peine, l'ennui que j'ai enduré et la patience que j'ai dû avoir à cette désagréable besogne sans autre outil qu'une pierre volante. Ce fut pour moi un tourment d'une espèce « quam siculi non invenere tyranni ». Je ne pouvais plus mouvoir mon bras droit et mon épaule me paraissait démise. Le creux de ma main était devenu une grande plaie, après que les vessies crevèrent. Malgré mes douleurs, je n'ai pourtant pas discontinué mon travail. Je l'ai voulu voir parfait. Vain de mon ouvrage et sans avoir décidé comme et en quoi j'aurais pu m'en servir, j'ai pensé à le cacher dans quelque endroit où il eût pu se dérober même à la perquisition. J'ai pensé de le mettre à travers la paille de mon fauteuil, mais non pas par-dessus, où en levant le coussin on aurait pu voir la marque dans la proéminence inégale, mais en tournant le fauteuil à la renverse, où j'ai poussé dedans le verrou tout entier, et si bien que pour le trouver, il aurait fallu savoir qu'il y était. C'est ainsi que Dieu me préparait le nécessaire à une fuite qui devait être admirable, mais non pas prodigieuse. Je m'avoue vain d'en être l'auteur, mais je puis assurer le lecteur que ma vanité ne dépend pas de ce que j'ai réussi, puisque le bonheur s'en est beaucoup mêlé. Mais de ce que j'ai jugé la chose faisable et que j'ai eu le courage de l'entreprendre. Après 3 ou 4 jours de réflexion sur l'usage que je devais faire de mon verrou devenu esponton gros comme une canne et long 20 pouces, dont la belle pointe acérée me démontrait qu'il n'est pas nécessaire de rendre le fer d'acier pour parvenir à le faire, j'ai vu que je n'avais qu'à faire un trou dans le plancher de mon cachot, sous mon lit. J'étais sûr que la chambre dessous ne pouvait être que celle où j'avais vu M. de Cavalli. J'étais sûr qu'on ouvrait cette chambre tous les matins, et j'étais sûr de pouvoir me couler facilement du haut en bas dès que le trou serait prêt, moyennant mes draps de lit dont j'aurais fait une espèce de corde en assurant le bout d'en haut à un chevalet de mon lit. Dans cette même chambre, je me serais tenu caché sous la grande table du tribunal, et le matin, dès que j'aurais vu la porte ouverte, j'en serais sorti, et avant qu'on eût pu me suivre, je me serais mis en lieu de sûreté. Je pensais qu'il était vraisemblable que Laurent laissât dans cette chambre un de ses archers pour garde, Et pour celui-là, je l'aurais d'abord tué en lui enfonçant dans le gosier mon esponton. Tout était bien imaginé, mais la difficulté consistait en ce que le trou ne pouvait être fait ni dans un jour, ni dans une semaine. Je prévoyais que le fort plancher pouvait être double et triple, et m'occuper 1 et 2 mois, et que par conséquent, il fallait chercher un moyen d'empêcher les archers de balayer le cachot par tout ce temps, ce qui aurait pu leur donner des soupçons, d'autant plus que, pour me délivrer des puces, j'avais exigé qu'ils balayassent tous les jours. Ils auraient trouvé le trou avec le balai, et j'avais besoin de la plus grande certitude que ce malheur ne m'arriverait pas. Nous étions dans l'hiver et je n'avais pas le tourment des puces. J'ai d'abord commencé à ordonner qu'on ne balaye pas, sans alléguer aucune raison. Quelques jours après, Laurent me demanda pourquoi je ne voulais pas qu'on balayât, et je lui ai répondu que c'était parce que la poussière qu'on agitait m'allait aux poumons, me causait la toux et pouvait me causer des tubercules mortels. « Ben alors nous jetterons, dit-il, de l'eau sur le plancher. »« Au point du tout, lui dis-je, car l'humidité peut produire la pléthore. » Il se tut, mais une semaine après, il ne me demanda pas la permission de faire balayer. Il ordonna, il fit même porter dehors le lit, et sous prétexte de faire nettoyer partout, il alluma une chandelle. J'ai laissé faire avec un air d'indifférence, mais j'ai vu que le soupçon animait cette démarche. J'ai pensé aux moyens de fortifier mon projet, et le jour suivant, j'ai ensanglanté mon mouchoir, m'ayant piqué un doigt, et j'ai attendu Laurent dans mon lit. Je lui ai dit que la toux m'avait pris, et qu'ayant craché le sang, il me fallait le médecin. Le docteur, le lendemain, persuadé ou non, m'ordonna une saignée et écrivit un recipé. Je lui ai dit que la cause de mon malheur était la cruauté de Laurent qui voulait faire balayer malgré ma remontrance. Il lui fit des reproches et le butor jura qu'il crut de me rendre un service et jura encore que quand je resterai là 10 ans, il ne ferait plus balayer. J'ai répondu froidement qu'on balayera lorsque la saison des puces reviendra. Le médecin conta alors qu'un jeune homme était mort il y avait quelques jours de maladie du poumon pour nulle autre cause que pour avoir voulu faire le métier de friseur, et il dit qu'il était persuadé que la poudre et la poussière aspirée ne s'expiraient jamais. Je riais en moi-même de ce que le docteur paraissait de concert avec moi. Les archers présents à ce doctrinal furent enchantés de l'apprendre et mirent entre les actes de leur charité celui de ne veiller pour l'avenir, de balayer pour l'avenir que les cachots de ceux qui les maltraiteraient. Après le départ du médecin, Laurent me demanda pardon en m'assurant que tous les autres prisonniers se portaient bien, bien que leur chambre, il les appelait chambre, fussent balayés tous les jours, mais qu'il allait les éclairer d'abord sur cet article important, car en qualité de chrétien, il nous regardait tous comme ses enfants. La saignée d'ailleurs m'était nécessaire. Elle m'a rendu le sommeil et m'a guéri des contractions spasmodiques qui m'épouvantaient. Je me suis fait saigner dans la suite tous les 40 jours. J'avais gagné un grand point, mais le temps de commencer mon ouvrage n'était pas encore arrivé. Le froid était très fort, et mes mains ne pouvaient empoigner l'esponton sans geler. Si j'eusse travaillé avec des gants, j'en aurais usé un tous les jours, et si l'on eût vu ce même gant, on aurait pu se douter de quelque chose. Mon entreprise était d'une espèce qui exigeait un esprit prévoyant et déterminé, à éviter tout ce qui pouvait l'être facilement, et hardi et intrépide pour se livrer au hasard dans tout ce qui, malgré que prévu, pouvait ne pas arriver. La situation de l'homme qui doit en agir ainsi est fort malheureuse. Mais un juste calcul politique, instruit que pour le tout expédite, risquait le tout. Les nuits éternelles de l'hiver me désolaient. J'étais obligé de passer 19 mortelles heures positivement dans les ténèbres et dans les jours de brouillard qui, à Venise, ne sont pas rares. La lumière qui entrait par le trou de la porte n'éclairait pas assez mon livre. Ne pouvant pas lire, je tombais un peu trop dans la pensée de mon évasion, et une cervelle toujours occupée dans une même pensée parvient facilement aux confins de la folie. Je contemplais, comme le souverain bonheur, celui de posséder une lampe à l'huile. Et ma joie fut grande lorsque, après avoir pensé à me la procurer par ruse, j'ai cru d'en avoir trouvé les moyens. Il s'agissait, pour la création de cette lampe, de me mettre en possession des ingrédients nécessaires à son existence. Il me fallait un vase, des lumignons de fil ou de coton, de l'huile, pierre à fusil, briquet, allumette, amadou. Le vase pouvait être une petite casserole de terre que j'ai retenue en la cachant, où on me portait des œufs brouillés dans le beurre. Je me suis rendu possesseur d'huile en disant que l'ordinaire avec lequel on m'assaisonnait la salade était mauvais, comme il était effectivement. On n'eut pas de difficulté à m'acheter de l'huile de Luc et à me porter tous les jours de la salade que je ne mangeais pas pour épargner l'huile. J'ai extrait de ma couverture du lit rembourré assez de coton pour me faire des lumignons en le filant à sec et si bien entortillé que je me suis étonné de les avoir su faire. J'ai fait semblant d'être tourmenté par une forte douleur de dents. J'ai dit à Laurent de me porter de la pierre ponce qu'il ne connaissait pas. Je lui ai substitué une pierre à fusil en lui disant qu'elle ferait le même effet. Ayant été mise pour un jour dans du fort vinaigre et appliquée après sur la dent, elle m'aurait soulagé de la douleur. Laurent me dit, comme je l'avais prévu, que le vinaigre qu'il m'avait apporté était excellent et que je pouvais y mettre la pierre moi-même. Et il me donna d'abord 2 ou 3 pierres qu'il avait dans la poche. Une boucle d'acier que j'avais à la ceinture de mes culottes devait être un excellent briquet. Il ne me restait que les allumettes et l'amadou dont la provision me mettait au champ. Mais à force d'y penser, je l'ai trouvé et la fortune s'en mêla. Une efflorescence dartreuse qui de temps en temps m'envahissait en me causant une très grande incommode démangeaison sur tout le corps m'assaillit et me fit prier Laurent de porter un billet au médecin dans lequel je demandais un prompt remède. Le lendemain, il me porta la réponse qu'il fit lire au secrétaire dans laquelle il n'y avait que ces 2 lignes. Diète et 4 onces d'huile d'amande douce, et tout s'en ira. Ou une onction d'onguent de fleurs de soufre, mais ce topique est dangereux. Ravi d'aise, j'ai quasi perdu mon air d'indifférence. Je me moque, lui dis-je, du danger. Achetez-moi de l'onguent de fleurs de soufre, et portez-le-moi demain. Ou donnez-moi du soufre. J'ai ici du beurre, et je me ferai l'onguent moi-même. « Avez-vous des allumettes? Donnez-les-moi. » Il tira de son étui toutes celles qu'il avait et me les donna. Grand Dieu, qu'il est facile d'avoir de la consolation quand on est dans la détresse. J'ai passé 2 ou 3 heures à penser à ce que je pouvais substituer à l'amadou, seul ingrédient qui me manquait, et que je ne savais pas sous quel prétexte je pourrais me procurer. Lorsque je commençais à désespérer de la chose, je me suis souvenu d'avoir recommandé à mon tailleur de me doubler d'amadou mon habit de taffetas sous les aisselles et de le couvrir avec de la toile cirée pour empêcher la tache de sueur qui, ordinairement, principalement dans l'été, gâte dans cet endroit-là tous les habits. Mon habit, que je n'avais porté que 4 heures sans suer, était là vis-à-vis de moi. Mon cœur palpitait. Le tailleur aurait pu avoir oublié mon ordre. Je n'osais pas me lever et aller faire 2 pas pour voir d'abord si l'amadou y était. C'était la seule matière qui manquait à mon bonheur. J'avais peur de ne pas la trouver et de payer trop cher mon désabus qui allait me priver d'un si cher espoir. Il fallut à la fin m'y résoudre. Je m'approche de la planche où mon habit était, mais tout d'un coup, je me trouve indigne de cette grâce. Je me jette à genoux et je prie Dieu que par sa bonté infinie, il fasse que le tailleur n'ait pas oublié mon ordre. Après cette chaude prière, je déploie mon habit, je découle la toile cirée et je trouve l'amadou. Ma joie fut grande. Il était naturel que je remerciasse Dieu, puisque j'ai été chercher l'amadou confiant en sa bonté, et c'est ce que j'ai fait avec effusion de cœur. Dans l'examen de cette action de grâce, je ne me suis pas trouvé sot comme je me suis découvert tel, réfléchissant à la prière que j'ai faite au maître de tout en allant chercher l'amadou. Je ne l'aurais pas faite avant que d'aller sous les plombs, ni ne la ferais aujourd'hui. Mais la privation de la liberté du corps hébète les facultés de l'âme. On doit prier Dieu d'obtenir des grâces, et on ne doit pas le prier de bouleverser la nature par des miracles. Si le tailleur n'eût pas mis l'amadou sous les aisselles, je devais être certain de ne pas le trouver, et s'il l'avait mis, je devais être sûr de le trouver. L'esprit de ma première prière à Dieu ne pouvait être que celui de dire « Seigneur, faites que je trouve l'amadou, quand même le tailleur ne l'aurait pas mis, et s'il l'a mis, ne le faites pas disparaître. » Quelques théologiens, cependant, trouveraient cette prière pieuse, sainte et très raisonnable, car elle serait fondée sur la force de la foi, et il aurait raison. Comme j'ai raison moi-même, non théologien, de la trouver absurde. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'être sublime théologien pour trouver juste mon action de grâce. J'ai remercié le Tout-Puissant de ce que le tailleur n'a pas manqué de mémoire, et ma reconnaissance fut juste selon les règles d'une très saine philosophie. Dès que je me suis vu maître de l'amadou, j'ai mis dans une casserole l'huile et un lumignon et je l'ai allumé. Quel contentement, quelle satisfaction de ne reconnaître ce bienfait que de soi-même, et de transgresser un ordre dont je ne connaissais pas le plus cruel. Il n'y avait plus de nuit pour moi. Adieu, salade. Je l'aimais beaucoup, mais je ne la regrettais pas. Il me semblait que l'huile n'était créée que pour nous éclairer, et que c'était abuser de la Providence que de s'en servir pour autre chose. J'ai décidé de commencer à rompre le chancher le premier lundi de carême, car dans les désordres du carnaval, je craignais toujours des visites. Ma précaution fut bonne. Le dimanche gras, à midi, j'ai entendu le bruit des verrous et j'ai vu Laurent, suivi d'un très gros homme, que j'ai reconnu d'abord pour le juif Gabriel Shalom, célèbre dans l'habileté de faire trouver de l'argent aux jeunes gens par des mauvaises affaires. Nous nous connaissions, ainsi nos compliments furent ceux de saison. La compagnie de cet homme n'était pas faite pour me faire plaisir, mais il fallait avoir patience. On l'enferma, il dit à Laurent d'aller chez lui pour lui préparer son dîner, un lit et tout ce qu'il lui fallait, et lui répondit qu'il parlerait de cela dans le jour suivant. Ce juif, qui était ignorant, bavard et bête, excepté dans son métier, commença par me féliciter de ce qu'on m'avait préféré à tout autre pour me donner sa compagnie. Je lui ai offert pour toute réponse la moitié de mon dîner, qu'il refusa en me disant qu'il ne mangeait que du pur et qu'il attendrait à bien souper chez lui, car il n'était pas vraisemblable qu'on eût laissé sans lit et sans manger un homme comme lui si l'on n'eût pas eu l'intention de le renvoyer d'abord chez lui. Je lui ai dit qu'on en avait agi de même avec moi. Il me répondit modestement qu'il y avait entre lui et moi quelques différences. Il me dit sans mystère que les inquisiteurs d'État devaient sûrement s'être trompés en ordonnant sa capture, qu'ils devaient déjà s'en être aperçus et se trouver un peu embarrassés à réparer leur faute. Je lui ai dit qu'il se pourrait qu'on lui fît une pension, car bien loin d'avoir jamais mérité cette prison, l'État lui avait de grandes obligations. Il trouva que je raisonnais juste, puisqu'il se disait l'âme du commerce intérieur dans son métier de courtier, et il avait donné sous main des avis fort utiles aux 5 sages présidents au commerce. « Cet événement, dit-il, aura fait votre bonheur, car je vous donne ma parole d'honneur qui ne passera pas un mois que je vous ferai sortir d'ici. Je sais à qui je dois parler pour cela et de quelle façon. » Je lui ai répondu que je comptais sur lui. Il fallait laisser en pleine liberté les 20 propos de cet animal imbécile qui positivement se croyait quelque chose. Il a voulu, au sens que je le lui ai demandé, m'informer de ce qu'on disait de moi, et il m'a ennuyé puisqu'il ne m'a rapporté que ce qu'on pouvait dire dans les entretiens des plus grands sots de la ville. J'ai jeté les mains sur un livre pour me désennuyer, mais il ne me laissa pas lire. Sa passion était celle de parler, et toujours de lui-même. Je n'ai pas osé allumer ma lampe, et l'obscurité étant prévue, il s'est déterminé à accepter du pain et un verre de vin de Chypre, que je n'ai pas pu m'empêcher de lui offrir, également que ma paillasse, qui lui était devenue le lit de tous les nouveaux arrivés. Le lendemain, on lui porta un lit et du linge et à manger de la juiverie. J'ai eu ce fardeau sur le corps presque 3 mois, car le secrétaire du tribunal eut besoin, avant que de l'envoyer aux 4, de lui parler plusieurs fois pour tirer au clair ses friponneries et pour le forcer à défaire des contrats illicites qu'il avait faits à son trop grand avantage. Il me confessa lui-même d'avoir acheté du ménage Dom Michel des rentes qui ne pouvaient appartenir à l'acheteur qu'après la mort du CH entre son père. Il ajouta qu'il était vrai que le vendeur y perdait 100%, mais qu'il fallait considérer que l'acheteur aurait perdu tout si le fils fut mort avant le père. Lorsque j'ai vu que ce mauvais camarade ne s'en allait pas, je me suis déterminé à allumer ma lampe. Il m'assura qu'il n'en dirait rien à personne, mais le bavard ne m'a tenu parole que jusqu'à son départ, car, quoique sans conséquence, Laurent l'a su. La compagnie de cet homme me comblait de chagrin. Je ne pouvais pas travailler à mon projet. Orgueilleux, fanfaron, timide, de temps en temps désespéré, fondant en larmes, il prétendait de me faire faire les hauts cris d'abord avec lui, en me démontrant que cette détention le perdait de réputation. Je lui ai dit que pour la réputation il n'avait rien à craindre, et il m'a remercié, prenant mon brocard pour un compliment. Je me suis diverti un jour à le convaincre que son vice dominant était l'avarice, au point qu'il ne tiendrait qu'aux inquisiteurs de le faire rester en prison pour toute sa vie, s'ils eussent envie de se divertir en lui donnant de l'argent d'avance, sous condition qu'il y resterait de bon gré pour un temps limité. Il tomba d'accord que, pour une somme considérable, il pourrait se résoudre à rester pour un peu de temps, mais que ce ne serait que pour se dédommager de ses pertes. Ce fut assez pour l'obliger à convenir que pour une plus grosse somme, il renouvellerait la même condition au bout du terme convenu, et au lieu de se mortifier, il en a ri. Il était talmudiste, comme tous les juifs qui existent aujourd'hui, et il affectait de me faire voir qu'il était très attaché à sa religion en conséquence de son savoir. En examinant dans la suite de ma vie mon genre humain, j'ai vu que la plus grande partie des hommes croient que le plus essentiel de la religion est le cérémonial. Ce juif extrêmement gras ne sortait jamais de son lit et, dans la nuit, il lui arrivait de ne pouvoir pas dormir, tandis que je dormais assez bien. Il s'avisa une fois de me réveiller sur le plus beau de mon repos. Je lui ai demandé avec aigreur pourquoi il m'avait réveillé. Et il me dit que, ne pouvant pas dormir, il me priait d'avoir la complaisance de causer avec lui, moyennant quoi il espérait qu'un doux sommeil viendrait à son secours. Surpris par un mouvement d'indignation, je ne lui ai pas répondu d'abord. Mais dès que je me suis trouvé en état de lui parler avec douceur, je lui ai dit que j'étais persuadé que son insomnie était un vrai tourment et que je le plaignais. Mais qu'une autre fois, que pour s'en soulager, il s'aviserait de me priver du plus grand bien dont la nature me permettait de jouir dans le grand malheur qui m'accablait, alors je sortirais de mon lit pour aller l'étrangler. Il ne me répondit pas. Ce fut la dernière fois qu'il me joua ce tour. Je ne crois pas que je l'aurais étranglé, mais je sais qu'il m'en donna la tentation. Un homme en prison qui dort tranquillement n'est pas en prison pendant son doux sommeil, et l'esclave ne sait pas d'y être, tout comme les rois ne règnent pas alors. Il doit donc regarder celui qui le réveille comme un bourreau qui vient le priver de sa liberté et le replonger dans la misère. Ajoutons qu'ordinairement, le prisonnier qui dort rêve d'être en liberté et que cette illusion lui tient lieu de réalité. Je me félicitais bien de n'avoir pas commencé mon travail avant l'arrivée de cet homme. Il exigea positivement qu'on balaye. J'ai fait semblant d'en être malade, et les archers n'auraient pas exécuté son ordre si je m'y fusse opposé. Mais mon intérêt était de me montrer complaisant. Le mercredi saint, Laurent nous dit qu'après Terza, monsieur le secrétaire montrait pour nous faire la visite que de coutume l'on fait tous les ans avant Pâques aux prisonniers, tant pour mettre la tranquillité dans l'âme de ceux qui veulent recevoir le Saint-Sacrement, comme pour savoir s'ils n'ont rien à dire contre le gardien. Ce qui ne m'inquiète pas, dit-il, car contre moi vous ne pouvez rien dire. Il nous dit donc de nous habiller complètement, car telle était l'étiquette. Il me dit que si j'avais envie de faire mes Pâques, je n'avais qu'à lui donner mes ordres. Je lui ai dit de me faire venir un confesseur. Je me suis donc habillé en tout point, et le juif en fit de même en prenant congé de moi, parce qu'il se sentait sûr que le secrétaire l'enverrait en liberté d'abord, après lui avoir parlé. Il me dit que son pressentiment était de l'espèce de ceux qui ne l'avaient jamais trompé. Je l'en ai félicité. Le secrétaire arriva, on ouvrit le cachot, et le juif sortit, se jeta à genoux, et je n'ai entendu que pleurs et cris. 5 à 6 minutes après, il rentra, et Laurent me dit de sortir. J'ai fait une profonde révérence à M. de Businello, et après je n'ai fait autre chose que de le regarder. Nul mouvement et pas un seul mot. Cette scène muette de part et d'autre dura autant que celle de mon camarade. Le secrétaire me fit une inclination de tête d'un demi-pouce et s'en alla. Je suis rentré d'abord pour me déshabiller et mettre ma pelisse, car le froid me tuait. Le ministre du tribunal doit avoir employé toute sa force pour s'empêcher de rire en me voyant, car ma personne, habillée très galamment, échevelée avec une barbe noire de 8 mois, avait de quoi faire rire le plus sérieux de tous les hommes. Le juif s'étonna de ce que je ne lui avais pas parlé et ne fut pas persuadé que je lui eusse beaucoup plus dit, moi par mon silence, que lui avec ses lâches cris. Un prisonnier de mon espèce, en présence de son juge, ne devait ouvrir la bouche que pour répondre aux interrogations. Le jour suivant, un jésuite vint me confesser, et le samedi saint, un prêtre de San Marco, vint m'administrer la Sainte Eucharistie. Ma confession parut trop laconique au père qui l'écouta, et il trouva bon de me faire plusieurs remontrances avant que de me donner l'absolution. Il me demanda si je priais Dieu, et je lui ai répondu que je le priais depuis le matin jusqu'au soir, et depuis le soir jusqu'au matin, même en mangeant, même en dormant, puisque tout ce qui se passait dans mon âme, dans mon cœur et dans mes agitations ne pouvait être, dans la situation où j'étais, qu'une prière continuelle devant la divine sagesse. Je lui ai dit que mes impatiences mêmes et les égarements de mon imagination devenaient prières. Ce jésuite, qui était un missionnaire, directeur de la conscience d'un vieux célèbre sénateur, homme de lettres, dévot, politique, et auteur d'ouvrages tous pieux et tous extraordinaires, et inquisiteur d'État, fit un petit sourire et paya mon doctrinal spécieux sur la prière avec un discours métaphysique d'un acabit qui ne cadrait aucunement avec celui du mien. J'aurais réfuté tout si, habile dans son métier, il n'eût pas eu le talent de m'étonner et de me rendre plus petit qu'une puce par une espèce de prophétie qui m'en imposa. « Puisque, dit-il, c'est de nous que vous avez appris la religion que vous professez, exercez-la comme nous et priez Dieu comme nous, nous l'avons appris. Et sachez que vous ne sortirez jamais d'ici que le jour dédié au saint votre protecteur. » Après ces paroles, il me donna l'absolution et il partit. L'impression qu'elle me fit est incroyable. J'ai eu beau faire, mais elles ne voulurent jamais sortir de ma tête. J'ai passé en revue tous les saints que j'ai trouvés sur l'almanach. Saint Jacques de Compostelle, dont je porte le nom, devait naturellement être par moi regardé comme mon principal patron. Mais comment pouvais-je le croire, pendant que ce fut précisément dans le jour de sa fête que Messer Grande vint enfoncer ma porte? Si je devais prier le saint, mon protecteur, il me semblait que le jésuite aurait dû me le nommer. J'ai cru qu'il s'agissait de le choisir. Examinant l'almanach, j'ai jeté un dévolu sur le plus voisin, qui était San Marco. San Giorgio venait avant lui, saint de quelque renommée, mais j'ai cru de devoir confier beaucoup plus dans l'évangéliste, d'autant plus qu'en qualité de vénitien, j'avais droit de réclamer sa protection. Je n'ai donc pas manqué de lui adresser mes vœux, mais sa fête passa, et me voyant encore là, je me suis recommandé à l'autre Saint-Jacques dont on célèbre la fête avec Saint-Philippe, mais elle passa sans que je m'en visse exaucer. Je me suis alors adressé avec beaucoup de dévotion au saint thaumaturge Saint-Antoine, dont j'avais visité le tombeau 1000 fois dans le temps de mes études à Padoue. Mais j'ai aussi espéré en vain. J'étais ainsi d'un autre à un autre, et insensiblement, je me suis accoutumé à espérer en vain, et la chaleur de mes prières diminua, mais non pas l'envie ni la décision de m'enfuir. Ce bonheur m'est arrivé, comme le lecteur verra, dans le jour de la fête du saint, mon protecteur. Car s'il y en avait un, il devait se trouver dans ce jour-là. Je n'ai jamais su son nom, mais c'est égal. Je ne lui ai pas été pour cela moins reconnaissant. C'est ainsi que la prophétie du jésuite dut s'avérer. j'ai regagné ma liberté le jour de la Toussaint.